journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le JDA, le Nigeria qui négociait avec Boko Haram. Le gouvernement nigérian a entamé des discussions avec le groupe djihadiste en vue d'un éventuel cessez-le-feu, c'est ce qu'a déclaré le ministre nigérian de l'Information, une déclaration qui intervient quelques heures après la libération de plusieurs lycéennes. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous favorable à des négociations avec la secte islamiste? Nous en demanderons son avis à Akere Orimisan, président du Club des francophones du Nigeria, membre du FEDIAN, c'est le forum économique de la diaspora nigériane en Europe. Pour intervenir, appelez maintenant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France et le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde. Mais avant de parler du Nigeria, on se tourne comme de tradition vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, cher ami du JDA et madame Hartmann, bonjour. Je suis vraiment outré par la situation des étudiants congolais en URSS et en Ukraine. Je me demande de nos responsables politiques s'ils sont vraiment des papas ou c'est des humains ou quoi. Comment peut-on laisser les gens sans bourse pendant 18 mois avec tous les problèmes administratifs des passeports et tout? Vraiment, ça me dépasse ce genre de situation. Voici ma contribution pour l'émission d'aujourd'hui. Dieudonné Kassongo, bien des choses à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.
Et bonsoir à mes auditeurs. Bonsoir à tous les amis de l'Africa numéro 1. J'ai envie de déposer un message, s'il vous plaît. Essayez de le diffuser pour que les gens puissent entendre. Vous savez, la vie des Chinois et la vie de l'Europe, ce n'est pas pareil. Bon, concernant la démocratie en Afrique, la démocratie qui se trouve en Afrique, en réalité, les démocraties sont toutes, ils sont tous identiques. Mais nous ne sommes pas formés pour la politique en Afrique. C'est ce qui est la vérité qu'on doit le dire.
Oui, bonjour. Je suis M. Paul. J'appelle pour le partenariat que la France veut faire avec les pays africains. Et je constate que c'est un peu dommage, parce que s'il faut que la France fasse le partenariat comme Bolloré est en train de faire en Afrique, c'est bizarre, parce que je ne sais pas pourquoi les pays africains ne peuvent pas prendre leurs responsabilités en main et contrôler leurs propres ports. Et aussi que Bolloré va dans des pays, il s'engage, il essaye de récupérer déjà les patrimoines qui existent, comme le problème de palmeraie au Cameroun que je suis en train d'entendre. Et vraiment, si c'est comme ça le partenariat, ça ne vaut pas la peine. Merci, au revoir.
Bonjour Africa numéro 1, bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1. Petit message de souvenir. Sarkozy, il a dit de Alain Juppé, il a un passé judiciaire. C'était lors des primaires de la droite de 2016. Alain Juppé, il a répondu. Sarkozy, il a un avenir judiciaire. Nous y sommes, n'est-ce pas? Souvenir. Bonne journée à tous et à toutes.
Chers auditeurs, bonjour. Chers peuples chrétiens, soyez attentifs à ce qui a été dit et ce qui sera dit à la conclusion du forum. La vérité de faire des fédérations est annulée. Pensons à l'union et à l'indépendance du pays et au développement, à la paix et à l'unité. Nous remercions le président Déby, ainsi que l'équipe du gouvernement et l'ensemble du peuple de leur adhésion au Forum national. Nous demandons au peuple tchadien de ne pas seulement briller la présidence dans leur vie, mais de penser à toutes les fonctions qui amènent le contrôle du système d'État pour son développement et pour la paix et pour la stabilité du pays. Le Tchad est la puissance de l'Afrique. Si le Tchad est en décadence, comme nous avons suivi les années avant, nos régimes africains seront aussi en décadence au sein de l'Afrique centrale et du Maghreb et de l'Afrique de l'Est. C'est pour cela que je demande au peuple tchadien, nous comptons sur votre bien vouloir faire de N'Djamena la ville de la paix et pour le développement au sein de l'Afrique.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci surtout à Mandile Mpofu, notre stagiaire, hein, qui les a sélectionnés et montés. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, faut-il négocier avec Boko Haram pour nous donner votre avis? 01 55 07 58 00. Mais nous en parlons tout de suite, hein, avant cela, avec Akere Orimissan. Akere Orimissan, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai oublié de vous demander, avant de vous prendre hors antenne, si je ne m'étais pas trompé dans votre présentation. Vous êtes toujours président du Club des francophones du Nigeria, mon cher Akere.
Tout à fait, et membre du FEDIAN.
Voilà, qui est le Forum économique de la diaspora nigériane en Europe. Merci beaucoup d'être avec nous, Akere Orimissan. Alors, une centaine d'écolières ont été enlevées le 19 février par le groupe islamiste Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria. Elles ont été libérées cette semaine et ramenées dimanche à leur famille. Dans le même temps, le ministre de l'Information, Lai Mohamed, a annoncé que des négociations étaient en cours pour un cessez-le-feu. Des discussions qui durent depuis un moment. Première question à Akere Orimissan, première réaction. Est-ce que cette annonce, finalement, du ministre nigérian de l'Information vous a étonné?
Plus rien ne m'étonne en ce qui concerne le gouvernement en place aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de Nigériens ne sont plus favorables à cette négociation. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Boko Haram s'est scindé en deux. Le gouvernement va certainement négocier avec une faction de Boko Haram. Et le problème ne sera jamais résolu. Donc, à quoi bon négocier si on ne va pas arriver à une solution définitive de ce qui se passe? Or, la dernière épisode d'enlèvement des filles de Dapchi, c'est un épisode de trop. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus tolérer une négociation comme celle-là parce qu'elle n'aboutira à rien. Donc, il faut, c'est des gens à combattre. Il faut maintenant se mettre véritablement en place et aller combattre. Et je pense que là-dessus, c'est un échec pour le gouvernement de Buhari, puisque le gouvernement de Buhari est arrivé au pouvoir avec l'intention de résoudre ce problème. Alors, on se rend compte qu'il n'est pas capable de résoudre le problème, donc il faut qu'il s'en aille.
Vous avez fait un constat très dur. En effet, l'enlèvement des lycéennes de Dapchi a lieu 4 ans après celui des lycéennes de Chibok, dont certaines sont toujours aux mains du groupe islamiste. Comment expliquez-vous ce nouvel enlèvement à Kéré Orimissan?
Seul le gouvernement fédéral est capable de nous expliquer ce qui se passe. Il faut savoir que les filles de Chibok ont été enlevées un an avant les élections de 2015. Aujourd'hui, les filles de Dapchi sont enlevées un an avant les élections de 2019. À savoir qu'on a l'impression que tout est en place pour permettre à Buhari de se faire réélire en 2019. Donc, j'ai personnellement l'impression qu'il y a quelque chose, une sorte de manipulation qui s'est mise en place et qui, pour moi, ne correspond pas à ce que les Nigériens attendent. De la situation dans le nord-est du pays. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent très bien le Nigeria, que le président Obasanjo avait été élu pour résoudre le problème de ce qu'on appelait à l'époque l'opposition du droit public congolais. Parce que le président Obasanjo est originaire du pays Yoruba et qui devait amener une certaine solution à ce problème-là. Le président Goodluck Jonathan a été élu aussi pour amener des solutions à la situation du Maine. C'est qu'il a quelque peu calmé quand il était au pouvoir. Même si au niveau des événements du nord-est du Nigeria avec les enlèvements des filles de Chibok, ça a été un désastre pour lui. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement Buhari a été élu pour trouver une solution à ce qui se passe dans le nord-est du pays parce qu'il est originaire de cette région-là. Alors, s'il n'est pas capable de résoudre ce problème-là, il ne peut pas se faire réélire en 2019. Ils ont beau faire toutes les manipulations qu'ils cherchent à mettre en place aujourd'hui, Buhari ne peut plus rester au pouvoir parce que ce qui s'est passé dernièrement avec l'enlèvement de filles de Dapchi, c'est une humiliation de trop pour le Nigeria.
Enlèvement qui avait été nié d'ailleurs à Kéré Orimissan dans un premier temps.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a tout un flou derrière cet enlèvement. Un enlèvement qui, dans un premier temps, on a constaté qu'il y a une dame obscure qui déclarait à la veille de l'enlèvement qu'elle était capable de faire revenir les filles, enfin, pas la veille, je veux dire que le lendemain de l'enlèvement, qu'elle était capable de négocier avec les ravisseurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Buhari a des contacts. Et ces contacts, je me demande si ce ne sont pas des contacts de manipulation qui vont certainement le faire rester au pouvoir.
Vous parlez de Mama Boko Haram, Akere, c'est bien ça, Aïcha Wakil?
Tout à fait. Donc, il y a donc cette dame qui est capable donc, de prendre contact, de rester en contact avec les personnes qui font des enlèvements et qui connaît quelque peu la situation dans le nord-est du pays et avec qui on va négocier aujourd'hui. Or, il faut savoir que dans la presse, on nous dit, et c'est que le gouvernement fédéral atteste d'ailleurs, que le mouvement Boko Haram est scindé en deux. On va négocier avec la branche manipulée aujourd'hui et on ne trouvera pas de solution à la réalité de la situation Boko Haram. À quoi bon négocier puisque demain, on va retrouver la même situation. Et ce qui est plus dramatique pour moi, c'est la situation des filles au Nigeria. Il faut savoir que le développement d'un pays dépend du niveau d'éducation des filles. Or, aujourd'hui, on est en train de traumatiser des familles qui ont consenti à des efforts considérables pour envoyer des filles à l'école. Mmh. Aujourd'hui, on est en train de traumatiser ces filles-là. Et écoutez, il n'y a pas 10 millions de lycées de filles dans le nord-est du Nigeria. Est-ce que le gouvernement fédéral n'est pas capable de mettre des moyens de sécurité en place pour sécuriser ces lycées-là ou ces internats de filles? Je trouve ça complètement aberrant ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Et donc, M. Bouhari n'est pas capable de résoudre la situation, dont la négociation, pour moi, elle n'aboutira à rien.
C'est très clair, Akere Orimisan. Restez à l'écoute. On va écouter les auditeurs. On a bien compris que pour vous, la réponse était surtout sécuritaire. Mais je vous poserai une question tout à l'heure sur peut-être le caractère endogène de Boko Haram. Avant cela, on se rend du côté du Burkina Faso, je crois, à retrouver Abdoul. Abdoul, bonjour. Ah, pourtant j'ai mis en insert 2, c'est dommage. Bon, Abdoul une fois, Abdoul deux fois, Abdoul ne m'entend pas. Donc si je fais Ousmane. Ousmane, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Ousmane.
À votre invité.
Il vous écoute.
Oui, je voulais dire que toutes les filles qui sont enlevées au Nigeria par Boko Haram, certaines qui se sont convertis à l'islam, qui ont épousé l'idéologie de Boko Haram, ne sont-elles pas des futurs terroristes, des futurs... je ne sais pas quoi.
Akere, je crois que vous nous attendez, vous êtes toujours là. Je parlais du caractère endogène de Boko Haram. Ousmane rappelle les filles converties. On a vu des jeunes filles adhérer à l'idéologie de Boko Haram. Est-ce que dans ce contexte, la négociation ne semble pas la meilleure solution, puisqu'apparemment une partie de la population semble se reconnaître, en tout cas, adhérer au mouvement? Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je ne peux pas l'accepter qu'une partie du Nigeria adhère au mouvement de Boko Haram. Boko Haram, c'est l'organisation la plus obscurantiste qui existe dans le monde. Une organisation qui considère que l'éducation est un péché, je ne vois pas à quoi on peut adhérer dans ce sens-là. Un pays en développement qui cherche à mettre en place des structures scolaires pour favoriser, pour améliorer l'éducation, avec une organisation qui considère que l'éducation est un péché, comment voulez-vous négocier avec un mouvement aussi obscurantiste que celui-là? Un mouvement comme ça, à mon avis, ça ne se négocie pas. On ne négocie pas avec un mouvement de ce genre. Si ce mouvement-là change d'avis en disant bon, on se transforme en mouvement politique pour aller dans un sens positif, oui. Mais ce mouvement, à ma connaissance, n'a jamais changé d'idéologie. On ne peut pas négocier avec une idéologie aussi obscurantiste. On est quand même au 21e siècle. On ne va pas retourner au 16e siècle.
Mais pourtant, Akere Orimisan, ce mouvement a bientôt presque 10 ans. Et on le sait, la réponse parfois violente, souvent violente de l'armée nigérienne a pu aussi radicaliser certaines populations dans le nord du pays, non?
C'est évident que l'armée nigérienne n'a pas toujours été à la hauteur de la situation. D'ailleurs, quand je vous parle de l'armée nigérienne, c'est beaucoup plus la police nigérienne qui n'a pas été à la hauteur du tout de la situation. L'armée, on a fait appel à l'armée qui normalement n'aurait pas dû intervenir dans une situation interne au Nigeria. Bon, on a fait intervenir l'armée parce que la situation était au-delà de la police. Donc maintenant, qu'il y ait des personnalités, enfin des gens de l'armée qui ne sont pas capables de trouver la bonne démarche envers la population, là, je suis d'accord que c'est une démarche qui est complètement faussé aujourd'hui et que la population ne comprend pas de l'agitation de comment cela s'est passé. Il faut savoir que pendant les coalitions d'ailleurs en Afrique de l'Ouest et centrale avec les armées tchadiennes, les armées du Cameroun, les armées d'autres pays, il y a eu aussi des exactions qui ont été commises pendant cette période-là et la population ne comprend pas du tout. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement fédéral du Nigeria a les moyens aujourd'hui de combattre ces gens. On ne peut plus négocier avec eux. Avec les derniers enlèvements qu'on vient d'avoir là, pour moi, il faut plus négocier. Parce que de toute façon, la négociation n'aboutira, je vous le répète, n'aboutira à rien.
Oui, effectivement, on parlait de différentes factions de Boko Haram et ce serait avec le groupe Barnaoui hein, que les négociations seraient en cours. On évoquait tout à l'heure le profil d'Aisha Wakil, hein, dit Mama Boko Haram. On la présente comme une avocate nigériane proche du groupe terroriste Boko Haram. Elle a déclaré ceci, je vais les poursuivre, ils m'appellent maman mais ils ne m'écoutent pas, je continue à leur parler, je les supplie de déposer les armes et d'opter pour la paix. On reviendra hein, sur cette figure d'Aisha Wakil. Restez à l'écoute Akere Orimisa, on va du côté du chat justement, écoutez, c'est pas ce truc là, c'est ce truc là, écoutez Apollinaire. Apollinaire, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Apollinaire, vous aussi au Tchad, hein, vous êtes concerné par ce phénomène Boko Haram. Est-ce que vous pensez qu'une négociation est possible?
Oui, la négociation serait possible dans la mesure où les deux parties s'engagent à respecter les points qui seront issus de cette négociation. Et parce que cette négociation, ça va en droite ligne de la paix. Donc, c'est la paix qu'on cherche. Si les points ici sont respectés, je ne vois pas du mal à ce côté.
Qu'est-ce que vous attendrez d'une négociation? Est-ce que finalement, il faut que Boko Haram se transforme en mouvement politique qui compétit, qui participe aux élections?
Oui, mais si le groupe djihadiste Boko Haram accepte de négocier, ils doivent renoncer à leurs menaces. Parce que de temps en temps, on observe que ce groupe djihadiste frappe le Nigeria. Et ce n'est pas seulement le Nigeria, disons la bande saharienne. Donc, ils doivent cesser de mener des menaces sur les paisibles citoyens. À ce niveau, on pourrait quand même accepter cette négociation. Et à l'État nigérien aussi de répondre à leurs aspirations. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui serait posé au cours de cette négociation.
Est-ce qu'une une amnistie est envisageable selon vous, Apollinaire?
Pardon?
Est-ce qu'une amnistie est envisageable?
Oui, ça serait envisageable si cela est au point du jour.
Merci beaucoup Apollinaire hein, du côté du Djamena. Alors justement, je parle d'amnistie puisque un groupe d'ONG hein, a condamné l'offre du gouvernement nigérian d'amnistier les membres hein, de Boko Haram dans le cadre de cette négociation. Restez encore à l'écoute un petit peu à Kéré Orimisa. On va faire un petit tour du côté de la page Facebook de l'émission. Alors, on n'a pas pu avoir Abdoul, mais il nous avait laissé un message sur la page en disant « Bonjour JDA, les négociations seront favorables que l'offensive ». On peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. L'armée nigérienne ne peut attaquer Boko Haram sans toucher des innocents. Et tout ça, ce sera le Nigeria qui perd. Donc Abdoul plutôt favorable à une négociation pour éviter les pertes en vies humaines. Thierno, du côté de Conakry, nous dit « Je suis pas d'accord qu'on négocie avec ces soi-disant islamistes. Ils ne sont pas des rebelles. C'est un gros risque pour l'État nigérian. Ce qu'il est en train de faire, les islamistes méritent d'être combattus jour et nuit. Nous investir pour démanteler leur réseau mafieux. » Nestor Shinzune du côté du Tchad nous dit « Où est-ce que le gouvernement et le chef de la secte Boko Haram se rencontrent pour les négociations? Pourquoi ne pas les prendre directement? Si tel est le cas, le gouvernement joue un rôle de complicité. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure à Kéré Orimisa. Il y a des intermédiaires en fait entre le gouvernement et ce groupe.
Oui, il y a des soi-disant intermédiaires qui sont des personnalités assez obscures aussi qu'on ne connaît pas très bien. Lors des enlèvements des filles de Chibok, il y avait eu plusieurs intermédiaires la négociation n'a absolument rien donné. Depuis peu, on sait que on a peut-être plus des personnalités qui puissent intervenir au niveau de factions de Boko Haram, Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'une faction de Boko Haram. On n'a pas la même mise sur la totalité du groupe. Et ce qui risque de compliquer la situation en ce moment. Vous savez, pendant les enlèvements de Chibok, j'étais favorable moi aussi à une négociation parce que je voulais absolument qu'on retrouve ces filles vivantes et qu'on puisse les ramener à leur famille, car c'est une sorte de c'est une humiliation terrible pour le Nigeria tout entier et pour une blessure énorme pour les familles qui étaient concernées, qui avaient consenti l'effort d'envoyer les filles à l'école, surtout dans le nord du pays. Donc moi, je voulais absolument qu'on les retrouve vivantes, ces filles-là. Mais à partir du moment où c'est là, on a quelque peu... Bon, on a réussi à en ramener quelques-unes, mais aujourd'hui, il faut savoir que quasiment la moitié des filles qui étaient enlevées à Chibok, on ne les a jamais retrouvées. Ouais. Hein. Ouais. Là encore, dans les 110 filles qui ont été enlevées récemment, il reste encore une en captivité, soi-disant parce qu'elle est chrétienne et qu'on n'a pas pu la libérer parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle a refusé de se convertir.
Tout à fait, on a vu effectivement cette information circuler sur les sites chrétiens pour rendre hommage à cette jeune fille. Mais alors, qu'on soit bien clair, Akere Wemiss, les 105 filles de Dapchi qui ont été libérées, elles ont été libérées sur négociation.
Je ne suis pas convaincu. Certes, il y a eu des contacts, il y a certainement eu des paiements de rançon, c'est quasiment sûr. Maintenant qu'il y a eu de véritables négociations avec le gouvernement, il n'y a pas eu de véritables négociations. Je suis persuadé qu'il y a eu de paiements de rançons qui ont fait que, d'ailleurs, vous vous rendez compte, dans un pays comme le Nigeria, on ramène 5-9 camions, on vient déposer, on vient chercher, on vient déposer, c'est-à-dire on se promène dans la ville, dans le nord-est du pays qui est déjà concerné depuis des années, et personne ne fait rien, et je n'arrive pas à l'expliquer, cette situation. Avec les drones, avec les puissances étrangères qui sont stationnées aux alentours de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des drones, qui ont tout ce qu'il faut pour surveiller ce genre, et ils viennent, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent en quelque sorte, et c'est ça que je ne peux pas supporter en tant qu'être humain, voir les filles de mon pays, les filles scolaires enlevées de cette sorte, c'est insupportable.
On entend bien en effet le gouverneur de l'État de Yobe, qui a été reçu par des jets de pierre, par sa population, a sévèrement regretté le manque de sécurité dans sa province. Il nous reste quelques minutes, on se tourne du côté du Standard, retrouver Violette. Violette, bonjour.
Oui, allô.
Bonjour Violette, bienvenue dans le JDA.
Merci, bonjour à tout le monde. Ben moi, je veux donner mon sentiment, moi, ce que je dis n'engage que moi. Je suis contre l'amnistie, je suis contre toute autre démarche avec eux, pour une simple bonne raison, c'est que quand on négocie un partenariat, on n'enlève pas les innocents. Et en ce qui concerne les négociateurs, ils négocient quoi? Quel est le prix qu'on a payé pour libérer les ces autres filles? Pourquoi chaque fois qu'un président arrive, il vient pour dire qu'il va faire quelque chose, on n'arrive pas au bout de la démarche? Le président actuel, il a été élu pour pouvoir aller à cette démarche-là et donner de l'espace. Ce que je conteste et que je n'approuve pas, Boko Haram persiste jusqu'à aujourd'hui. Qui les soutient? Qui finance? Voilà. Derrière cette organisation,
c'est la vraie question.
Donc,
la question, c'est que est-ce que l'extérieur n'y est pas et n'a pas la même mise? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que la zone, c'est une zone à pétrole et avec tout ce qui est avec.
Alors, Akere Orimissan, merci beaucoup Violette, on a bien compris vos interrogations que Akere Orimissan semble partager. Violette dit finalement qui les finance, est-ce que l'extérieur n'a pas un rôle? On évoquait il y a quelque temps, au commencement de Boko Haram, le rôle du Tchad éventuellement. Et ma question sera celle-ci aussi à Akere Orimissan. Vous parlez d'éventuelles rançons données pour contre la libération des filles. Est-ce que finalement ce genre de pratique, on l'a vu dans le Sahel, au Mali, ne sert pas surtout à renforcer ces groupes-là et à leur donner des moyens de s'équiper?
Mais bien entendu. Bien entendu, je vous disais tantôt que regardez la manière dont ils se promènent dans le nord-est du Nigeria. Ils sont chez eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tous les équipements possibles. Des camions. Ils ont des armes. D'où viennent ces armes? D'où vient le financement aujourd'hui? C'est que à force de payer des rançons, on va arriver à mettre en place des monstres dont la solution ne sera jamais trouver de paix dans ce pays-là. C'est ça qui m'inquiète, moi. Si on continue, d'ailleurs, si on commence la négociation, ça va aboutir à quoi? On va finir par payer des rançons, à racheter, ou bien à libérer des prisonniers les plus dangereux qu'il y a dans le pays, à les mettre en liberté, et à la fin, ça va donner quoi? Ça va donner que dans 2-3 ans, ça va recommencer. Et le prochain régime en place au Nigeria va encore avoir à supporter cette situation pendant des années et des années. Non, ce genre, on ne discute pas avec des monstres, on ne discute pas avec des obscurantistes pareils. Il faut trouver un moyen maintenant pour les combattre définitivement.
Alors justement, je remercie Violette de sa participation. Justement, Kéré Orimissan, vous évoquiez tout à l'heure cette coalition qui avait été mise en place avec le Cameroun, le Tchad. Qu'en est-il? Cette coalition est-elle toujours opérationnelle?
C'est une coalition qui a fourni des efforts, hein, qui a fait de chaque côté d'ailleurs, que ce soit du côté du Cameroun ou du côté du Tchad et même du côté du Niger. Il y a eu des efforts de fait, il y a eu du travail de fait dans ce sens-là. Il y a une meilleure coopération qui s'est mise en place entre le Nigeria et le Cameroun depuis maintenant quelques années. Et donc ça, pour moi, ça progresse. Il faut continuer dans cette coopération. Mais je pense que le plus gros du boulot doit être fait au Nigeria, pas ailleurs. Donc le Nigeria doit absolument mettre les moyens qu'il faut. S'il faut pour cela changer de gouvernement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut changer Buhari et mettre quelqu'un d'autre en place qui va certainement faire un meilleur boulot, puisque Buhari est originaire du nord-est du Nigeria. Il connaît la configuration géopolitique de la région. Mmh. Il connaît bien sa population. Il connaît la population qui est traumatisée par cette situation. Et il est à mesure, on pensait qu'il était à mesure d'apporter rapidement une solution. Puisqu'il n'est pas capable de le faire, en 2019, il faut changer de président et mettre quelqu'un d'autre au pouvoir.
L'équation est de savoir si ce quelqu'un d'autre sera lui en mesure de le faire, ce qui est moins sûr à Kéré Orimissan. On entend bien que pour vous la réponse est sécuritaire. Mais écoutez, je vous lis ce message de Maurice sur Facebook qui nous dit « Rien ne justifie la guerre que les deux parties se livrent depuis des années. L'État doit chercher à comprendre les raisons qui ont poussé à cet extrémisme et voir comment y remédier. Beaucoup de jeunes rejoignent ces criminels juste pour avoir le salaire, subvenir à leurs besoins. C'est à l'État de les convaincre en créant des emplois. Si une négociation pour un cessez-le-feu peut sauver des vies, je suis favorable. Entre-temps, les revendications des populations doivent être bien examinées. Ne peut-on pas apporter des réponses sociales aussi dans cette région du Nigeria qui est quand même moins développé que le reste du pays?
Oui, mais écoutez, c'est un argument que je ne partage pas du tout. Vous savez, vous croyez qu'au Nigeria, il n'y a que le nord-est du pays qui est dans cette situation-là? Il y a plein de sous-régions au Nigeria qui sont dans des situations aussi identiques. Pour autant, les jeunes ne vont pas prendre des armes, enlever des jeunes filles dans leur lycée, monter des camions qui coûtent des milliers d'euros, à se pavaner de gauche à droite dans la région à enlever des enfants. Donc c'est un argument. Bon, l'argument social, je veux bien l'écouter, le fait que...
On a vu ça du côté de Difa aussi, à Kéré Orimissan, Difa qui est aussi concerné par Boko Haram, où de nombreux jeunes finalement, par envie d'un avenir meilleur, rejoignent les groupes les rangs du groupe.
Alors pour moi, je suis jeune, je veux un avenir meilleur, il faut que je cherche à rejoindre Boko Haram. Si c'est ça la solution de facilité, enfin, c'est plutôt pour moi une solution de facilité. C'est trop facile ça, de dire je vais aller enlever mes sœurs qui vont au lycée, qui sont dans les internats. C'est ça ma solution. Mais je trouve ça dramatique. Si ça en arrive là, donc certes, le gouvernement doit faire mieux et c'est ce que le gouvernement est en train de faire en termes d'amélioration du système du partage de la manne pétrolière au Nigeria, même si la manne pétrolière en elle-même, de toute façon, à ce moment, avec la baisse du prix du pétrole, ne donne plus rien. Donc il faut que chacun, dans chaque région, chaque gouverneur doit mettre en place des activités pour sa population. Et c'est pour cela que je ne comprends pas d'ailleurs avec le gouverneur de l'État de Yobe aujourd'hui, qui n'a pas été capable de mettre en place une sécurité conforme à la demande de la population.
Oui, contrairement à d'autres pays, le Nigeria est un État fédéral et effectivement chaque région a une certaine indépendance. On va finir avec le standard, si vous voulez bien, à Kéré Orimissan. Il y a M. Fomaigne et Ba qui attendent. On commence avec M. Fomaigne peut-être. Bonjour. Ah, attendez, je me suis trompé de bouton, c'est les vieilles habitudes. Voilà, Monsieur Fomaigne, bonjour. Monsieur ?
Allô ?
Oui. Monsieur Fomaigne, Fomaigne.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans le JDA.
Voilà, mon avis, le dialogue, c'est l'âme des hommes forts.
Bon.
C'est pas méchant du tout de dialoguer, au fait. Donc, dialoguer, c'est même si je ne suis pas favorable avec le dialogue, mais c'est pas méchant, en fait. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est l'âme des hommes. Il faut dialoguer.
Mais certains vous répondront, M. Fomaigne, on voit ça ici, hein, en France, par exemple, on ne négocie pas avec des terroristes.
Oui, oui, non, 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 en France, ici, ils vont dire officiellement, ils vont dire publiquement qu'on ne négocie pas avec le terroriste. Ils ont dit El Salah, jusqu'à présent, il négocie avec lui pour qu'il parle. Pour moi, il appelle ça de la négociation. Il est dans les mains, il refuse de parler, il parle quand il veut, il parle pas quand il veut. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de discuter avec lui pour qu'il parle. Mais voilà. Et la négociation, après, ça dépend de comment on voit et comment tu prends la chose. Mais pour l'amitié aussi, je suis pas d'accord, il faut pas les amitiés. Mais peut-être que si tu vois le gouvernement propose ça, ils sont à bout de souffle. C'est ce qu'il faut voir. Parce que après, si ça peut sauver des vies, même si on n'est pas d'accord, il faut s'aligner à ça. Moi, je suis pas d'accord, comme je vous le dis. Je suis pas d'accord pour la négociation, je suis pas d'accord pour l'amnistie. Mais si ça doit sauver des vies, c'est les bienvenus. Il faut le prendre. Le gouvernement, ça se voit que le gouvernement est à bout de souffle. Ils sont faibles face à Boko Haram. Ça se voit automatiquement. En même temps, qu'est-ce pour que ce n'est même pas des jeux politiques, comme votre invité vient de le dire. Chaque moment que Boko Haram doit prendre des filles, c'est à un an des élections. Mais bon, voilà. Après, bon, la négociation, comme je le dis, moi, je m'arrête à ça.
Ce sera votre mot de la fin, justement, Monsieur Fomet, qu'on arrive à la fin de cette émission. Vos avis sont partagés. Parce que, Monsieur Bas, je m'excuse, on n'aura pas le temps de prendre. Monsieur Bas disait que c'est une bonne chose, la négociation. Le gouvernement et la population ont tout à perdre, pas Boko Haram. Du côté de la page Facebook, on n'est pas très d'accord. Sylvain nous dit le gouvernement ne devrait pas négocier avec les terroristes. On les combat. Hosanna, idem. Moi, je suis contre cette initiative. On ne peut pas du tout négocier avec des terroristes, des assassins, des personnes sans foi ni loi qui ont endeuillé tant de familles. On arrive donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Aurémissant, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes Merci Akere, vous êtes le président du club des francophones du Nigeria, membre du FEDIAM, c'est le forum économique de la diaspora nigériane en Europe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. On pourra parler un peu du Burundi. À demain.